Bon, alors j'ai pris beaucoup de retard, mais je vais quand même pas essayer de ne pas accélérer le rythme, donc je vais garder un peu du matériel pour les fois suivantes, tout en essayant de jongler avec le fait qu'il faut que j'ai couvert certains sujets pour que les séminaires soient compréhensibles. Donc, je vais essayer de me débrouiller comme ça, en faisant peut-être encore 20 minutes autour de la structure électronique et des modèles, et puis ensuite, quitte à y revenir un peu une autre fois, et puis ensuite en vous donnant les grands éléments, une description très large des différents régimes du diagramme de phase de ces matériaux. Bien, alors on a donc vu que la structure électronique de ces matériaux se caractérisait par la présence d'une bande active au niveau de Fermi, qui est une bande avec une forte covalence entre les orbitales x2-y2 du cuivre et les orbitales px et py de l'oxygène. Bande antiliante. Alors, bien sûr, comme vous le voyez ici, cette bande, qui peut donc contenir au maximum deux électrons, comme toute bande, spin-up et spin-down, et qui n'est occupée que par un seul trou, puisqu'on a une configuration cuivre 3D9 avec un trou dans la couche D, et donc demi-rempli. C'est pour ça qu'on parle d'un système à bande demi-rempli, ce qui, a priori, peut sembler un peu paradoxal, parce qu'il y a quand même 9 électrons. Donc une bande demi-remplie parce que les 8 autres occupent des bandes profondes en énergie. On a donc une bande demi-remplie, alors vous pouvez la voir comme demi-remplie par un électron ou demi-remplie par un trou, comme vous voulez. Selon donc les standards de la structure électronique, ce matériau devrait être un métal. Or, c'est un isolant, et si vous n'en êtes pas convaincu, voilà son spectre optique de La2CiO4, donc ça ce sont des manips déjà fort anciennes, qui datent de peu après la découverte des cuprates, et vous voyez que donc ce matériau a un gap qui est ici de l'ordre d'un EV. En fait, des meilleures expériences plus récentes donnent une descente encore plus abrupte ici du seuil d'absorption, donc c'est un peu plus qu'un EV, mais enfin vous voyez que donc c'est un isolant avec un gap, et clairement c'est quelque chose auquel on est tout à fait familier dans les oxydes. Qui est que les fortes interactions entre électrons peuvent conduire à l'ouverture d'un gap de type, disons, gap de Mott, comme je l'ai expliqué l'année dernière à plusieurs reprises, dans ce type de matériaux. Alors, en fait, je parle de gap de Mott, mais d'une manière un petit peu plus précise, ces matériaux sont plutôt des isolants de transfert de charge, et je vais vous expliquer un petit peu ça plus en détail. En partant d'une description simplifiée de la structure électronique. Donc vous voyez la structure électronique complète de tout à l'heure, elle est ici. On a distingué trois bandes qui proviennent plus particulièrement des plans cuivre-oxygène, qui sont cette bande antiliante, cette bande liante très basse en énergie, puis quelque part ici une bande non liante. Alors vous voyez que donc le modèle minimum, minimal, auquel il faut s'intéresser pour décrire ces plans cuivre-oxygène, c'est certainement, au départ, un modèle dit à trois bandes, qui est aussi quelquefois appelé le modèle de Emery. On pourrait dire Emery et probablement d'autres, qui a été introduit ou réintroduit très rapidement après la découverte de ces matériaux. Pourquoi trois bandes? Eh bien non, parce qu'il y a cette bande X2-Y2 du cuivre et les deux PX et PY de l'oxygène dans le plan. Ça fait trois. Et vous voyez que ce type d'hamiltonien, que j'ai déjà introduit l'an dernier, pour représenter ces trois bandes, contiennent les paramètres suivants. On a d'une part un niveau caractéristique moyen des orbitales d'oxygène, qui s'appelle ici epsilon p. D'autre part, un niveau caractéristique de l'orbital d du cuivre, epsilon d. Les transferts électroniques se font principalement entre ce lobe et ce lobe de l'orbital du cuivre et ce lobe de l'orbital d'oxygène. Donc ça, c'est une certaine amplitude de saut, TPD, qui traduit le recouvrement de ces orbitales. Et puis ici, il y a un signe qu'il ne faut pas oublier, qui serait moins ici et plus ici. Donc, il ne faut pas oublier ces phases. Il peut y avoir un saut direct entre orbitales d'oxygène. Donc ça, c'est pour la structure de bande. Et puis, il y a bien sûr des répulsions de Coulomb. Et ces répulsions de Coulomb, ce sont les répulsions de Coulomb écranté par toutes les autres transitions électroniques présentes dans le système. J'ai consacré un cours l'année dernière à la manière dont on peut estimer quantitativement ces répulsions de Coulomb par des méthodes de type GW ou RPA ab initio dans le solide. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de ces paramètres, de la valeur typique, disons, de ces paramètres dans les cuprates. Alors, pour comprendre les chiffres qui sont là, j'ai besoin de vous préciser que j'ai écrit de manière un peu perverse cet hamiltonien dans une représentation dite de type trou. C'est-à-dire que je prends comme état de référence la couche complète 3D10 du cuivre et la couche complète 2P6 de l'oxygène. Et l'opérateur décroît crée un trou dans l'orbital D du cuivre et l'opérateur P croix crée un trou dans l'orbital P de l'oxygène. Donc dans une représentation qui est la représentation physique d'électrons, les orbitales P sont plus basses en énergie que les orbitales D, comme vous le voyez dans le diagramme qu'on avait tout à l'heure ici. Les orbitales P sont plus basses en énergie que les orbitales D. Mais si je prends une représentation de type trou, eh bien, les orbitales P sont vides, puisqu'elles ne contiennent pas de trou, d'accord ? Et donc, c'est au contraire epsilon P qui est plus grand que epsilon D. De manière mathématique, c'est parce que je change P en P croix, et donc P croix P se change en 1 moins P croix P, P croix P. Bon, donc dans cette représentation de type trou, que les théoriciens aiment bien, epsilon P est plus grande qu'epsilon D, ce qui signifie que la bande P est vide de trous, autrement dit, pleine d'électrons. Voilà, donc ce nombre, qui est la différence entre les niveaux nominaux de bande P et de bande D, je rappelle qu'il y a des places au premier rang, eh bien cette énergie caractéristique, un nombre communément admis, c'est de l'ordre, disons, de 2,5 à 3,5 électronvolts. Alors, je voudrais quand même faire une petite pause à ce stade et dire que la question de l'estimation, je dirais ab initio, de ces paramètres pour un cuprate donné est une question qui, à mon sens, est loin d'être, de faire l'objet d'une solution claire et universellement admissible aujourd'hui. Si on explore la littérature, on voit que les méthodes qui ont été utilisées sont du type méthode LDA avec contrainte, dont j'ai un peu parlé l'an dernier, calcul de cluster, mais on ne peut pas dire que l'état de l'art pour la détermination ab initio de ces paramètres soit particulièrement satisfaisant. Donc il y a sans doute des choses à faire qui pourraient être assez intéressantes d'ailleurs pour comprendre les différences entre les différents matériaux de cette grande famille. Mais enfin, je pense qu'on peut, au niveau des modèles, se fonder sur une énergie typique de transfert de charge de l'ordre de 2,5 à 3,5 électronvolts, au moins pour les matériaux dopés en trou. Il y a des propositions assez sérieuses par lesquelles, pour les matériaux dopés en électrons, comme NCCO, delta pourrait être nettement plus petit, ce qui est assez logique, puisqu'il y a moins de répulsion électrostatique liée à l'absence de ces oxygènes apicaux. Il y a un article récent, par exemple, de Weber et collaborateurs sur ce sujet. Alors, intégrale de transfert, bon, ça, je pense que c'est des valeurs qui sont très communément admises et qui constituent des bons fits aux bandes de la LDA, que je vous montrais tout à l'heure. TPD de l'ordre de 1,3 à 1,6 EV, TPP peut-être moitié plus petit. Les paramètres d'interaction. Alors, ces paramètres d'interaction sont grands, et en particulier la répulsion pour mettre deux trous sur le même site de cuivre est considérable, de l'ordre de 8 à 10 électronvolts, ça je crois que tout le monde est d'accord, et on peut même la considérer comme essentiellement infinie si on s'intéresse à une physique de relativement basse énergie, quelques EV autour du niveau de Fermi, cette énergie est extrêmement grande. La répulsion pour deux trous sur le même site d'oxygène, est aussi très grande. Elle est certainement de l'ordre de 4 EV, elle est très grande. Mais ces orbitales sont complètement pleines ou complètement vides, si vous utilisez la représentation de trous. Et donc, les effets dynamiques liés à l'interaction oxygène-oxygène sont probablement pas très importants. Alors, il y a une controverse assez grande. Alors ici, il y a une faute de frappe malencontreuse. Je suis désolé, parce que ceci devrait être UPD et pas UPP. C'est la répulsion entre un trou sur les oxygènes et un trou sur les cuivres. Ça, c'est un paramètre qui n'est pas très bien connu, voire ce que je disais tout à l'heure, qui est probablement de l'ordre, disons, d'un électronvolt. Et une des controverses importantes sur les cuprates, c'est quels sont les effets dynamiques qui sont induits par cette interaction. Quand je parle d'effets dynamiques, ça veut dire des effets au-delà, disons, d'un traitement simple de type Hartree-Fock, des effets purement électrostatiques de ces interactions, qui va évidemment renormaliser la position du niveau P par rapport à celle du niveau D. Mais il peut y avoir des effets dynamiques au-delà de ça. Et ça, c'est une question qui est l'objet de pas mal de controverses et qui contrôle évidemment la possibilité de réduire ce modèle encore plus d'un modèle à trois bandes à un modèle plus à une bande. Alors, essayons de connecter ce modèle du théoricien à trois bandes à ce qui était représenté ici. Donc vous allez voir, ça marche assez bien en fait. On peut comprendre assez bien tous ces spaghettis avec une représentation simple à trois bandes. Alors, diagonalisons ce modèle à trois bandes. Donc là, vous ne voyez pas très bien les équations, mais en fait, ça revient à diagonaliser cette matrice ici. Hein. On prend CuO2, le motif CuO2, et puis on regarde les différents transferts entre électrons en mettant les bons signes, c'est les phases dont je parlais tout à l'heure. Si vous diagonalisez cette matrice, eh bien, vous trouvez trois bandes, hein, qui sont les solutions de cette équation. Il y a une bande non dispersive à oméga égale epsilon p, qui est la bande non liante. Et puis il y a deux solutions qui sont représentées ici, qui sont la bande liante, celle avec le signe moins, et la bande antiliante, celle avec le signe plus. Si vous faites un dessin de ces bandes dans l'espace K, alors cette fois c'est l'espace K, la zone de Brillouin simplifiée de mon plan CuO2, donc celle-là, un théoricien comme moi peut la comprendre, il y a un point au centre ici, gamma, il y a le point π0 et le point ππ qui est là, et ce que vous voyez ici, c'est la dispersion de ces trois bandes avec juste un TPD, hein, quand on suit un parcours dans la zone de Brillouin qui part d'ici, qui va ici, qui va à pipi et qui revient. Donc quand on suit ce schéma comme ça, et vous voyez que donc, eh bien, on a cette bande liante, cette bande non liante, et puis ici, on a cette bande antiliante. Alors j'ai essayé de faire la correspondance par des couleurs entre ce schéma simplifié et la réalité du matériau, et vous voyez que ça marche pas mal. Donc si vous partez ici du point gamma, le point gamma il est en violet, c'est celui-là, d'accord ? Donc c'est un minimum de cette bande antiliante. Ici vous allez de gamma au point qui est ici en bleu qui correspond au point π0, donc il faut penser que là vous allez de la gauche vers la droite, là vous allez de la droite vers la gauche, donc ça marche assez bien, vous voyez là. Et puis le sommet de la bande antiliante correspond au point qui est appelé ici x, qui est le point ππ qui est là, hein, c'est le sommet de la bande antiliante, et vous voyez que c'est bien un maximum local de la bande antiliante. Donc quand on regarde les choses sous cette perspective, vous voyez que ce dessin, au moins qualitativement, ce dessin très simple, peut faire l'objet d'un petit problème d'introduction à la physique des solides pour les étudiants de première année, eh ben, ça marche assez bien pour décrire cette bande antiliante dans la réalité de ce solide. Voilà. Alors, continuons un petit peu au-delà de la théorie des bandes. Donc, comme je le disais, ce n'est pas un métal, c'est un isolant. Pourquoi ? Eh bien, bien sûr, c'est à cause de ces interactions électroniques. Alors, vous voyez qu'il y a deux paramètres qui sont importants. Il y a d'une part la répulsion sur les cuivres, UDD, et d'autre part l'énergie de transfert de charge, delta. Et on est clairement dans une situation où U est beaucoup plus grand que delta. U est de l'ordre 8 à 10 EV, delta est de l'ordre de 2 à 3 EV. Donc, ce qui bloque le transfert de charge dans ce système, ce n'est pas U, c'est delta, c'est-à-dire que le prix qu'il faut payer pour mettre un trou dans ce système, pour rajouter, pour enlever un électron, c'est-à-dire rajouter un trou, eh bien, ça ne va pas être U, hein, parce que ce trou, on ne va pas le mettre dans l'orbital de cuivre, c'est-à-dire on ne va jamais créer la configuration 3D8, pour être concret, hein, mais en réalité, on va enlever les électrons sur les oxygènes qui sont 2-3 EV en dessous des cuivres. Hein. Alors ça, c'est la situation dont j'ai parlé dans le cours de l'an dernier, qui est un isolant. C'est le mécanisme de Mott, hein, c'est quand même un blocage électrostatique qui interdit le transfert des électrons dans le système, mais ce n'est pas directement l'interaction de Coulomb sur le site de cuivre, c'est la différence d'énergie entre le site de cuivre et le site d'oxygène, c'est ce qu'on appelle un isolant de transfert de charge. Le transfert de charge est bloqué par la différence des deux niveaux d'énergie, U étant très grand. Donc ça veut dire qu'en gros, les niveaux électroniques qui sont présents dans le système, eh bien, il y a l'état fondamental qui est quelque part là. Hein, là, j'ai essayé de représenter les énergies d'excitation pour des excitations à un électron, enlever ou retirer un électron du système. Donc l'état fondamental, qui est donc essentiellement un état 3D9, on peut lui ajouter un électron pour créer l'état 3D10, couche complète du cuivre. Ça sera la bande de Hubbard supérieure, voir le cours de l'an dernier. On peut enlever un électron, et ça, il y a deux manières de le faire. On peut enlever l'électron sur la configuration 3D9 pour créer la configuration 3D8, mais ça coûte beaucoup d'énergie, 6, 7 EV. Et donc, ça va être la bande de Hubbard inférieure qui est ici. Et puis, on peut enlever cet électron dans la bande d'oxygène, créer un trou dans la bande d'oxygène. Ça coûte seulement l'énergie de transfert de charge ou de l'ordre de delta. Donc, voilà une situation où, parce que delta est plus petit que U, on a, dans la fameuse classification de Zanen, Zawadzki, Allen, un isolant de transfert de charge, plutôt qu'un isolant de Mott, à strictement parler. Selon cette image, vous voyez que la création d'un trou pour les matériaux dopés en trou, comme LSCO, se fait par création d'un trou dans les orbitales d'oxygène. Donc comment, de manière plus précise, se met ce trou dans les orbitales d'oxygène? C'est ça qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on appelle le Singulet-Zang-Rice, dont je vais donner une petite discussion. En revanche, dans les composés dopés en électrons, comme NCCO, eh bien, on va tout simplement rajouter l'électron en première approximation dans la couche du cuivre et créer la configuration 3D10, c'est-à-dire peupler cette bande de Hubbard supérieure. Alors, le fait que les trous se mettent sur les orbitales d'oxygène dans les composés dopés en trous et vont sur le site de cuivre dans les composés dopés en électrons, c'est quelque chose qui peut être testé expérimentalement directement par différentes spectroscopies de haute énergie, comme l'absorption X par exemple. Je n'ai pas le temps d'en parler en détail, mais c'est bien documenté par les spectroscopies de haute énergie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le Singulet-Zang-Rice et ce dopage en trou sur les sites d'oxygène. Donc, l'idée qualitative, on peut tout simplement la comprendre en regardant simplement notre cluster, notre petit amas CuO4, donc un cuivre entouré de ces quatre oxygènes, et en regardant un petit peu les états. Alors, s'il n'y a pas du tout de transfert électronique, si TPD est zéro, vous voyez que les états sont les suivants. On a une configuration D10 qui serait ici basse en énergie, qui est mon niveau de référence. Je vous rappelle qu'ici, j'utilise de manière perverse une représentation de trou. D'accord ? Donc la configuration la plus basse en énergie, en réalité, c'est la plus haute dans la représentation d'électrons, qui est ici, la couche complète, mon niveau de référence. Je peux créer un trou dans l'orbital, la couche complète D10, ça me donne la configuration D9, qui aura donc un trou, qui peut être de spin vers le haut ou de spin vers le bas, ça veut dire que l'électron correspondant à le spin opposé, si vous voulez, ça va avoir une énergie epsilon D. Je peux aussi maintenant créer un trou dans le ligand, c'est-à-dire dans l'orbital d'oxygène, et ça, en gros, ça aura une énergie epsilon D plus epsilon P, et puis je peux créer deux trous dans la couche de cuivre, ce qui va me donner la configuration D8, d'une énergie U au-dessus de celle-là. Et donc, c'est celles-là qui sont vraiment actives. Alors ça, c'est en l'absence de TPD. Maintenant, si je mets TPD, vous voyez bien que les deux configurations ici, où je mets les deux trous de spin parallèle ou les deux trous de spin antiparallèle, n'ont pas la même énergie, puisque par un argument du type du super-échange habituel, eh bien, la configuration singulaire, où je mets les deux trous de spin antiparallèle, va être favorisée par rapport à la configuration triplet. Donc on s'attend à ce que ces quatre états ici qui existent vont avoir une levée de dégénérescence qui, dans la limite où TPD est beaucoup plus petit que delta, qui entre parenthèses n'est pas forcément exactement réalisé dans ces systèmes, mais prenons-le comme une limite indicative, eh bien il va y avoir une levée de dégénérescence entre l'état singulier qui va être de plus basse énergie et l'état triplet par une différence de l'ordre de TPD carré sur delta, c'est-à-dire le super-échange cuivre-oxygène. Donc, l'état de Zang-Rice, c'est l'observation qu'on va avoir tendance à mettre les trous sur les oxygènes dans une configuration singulaire et délocaliser sur les quatre oxygènes voisins. On va fabriquer une fonction d'onde de ce type, qui est cet état ici, donc D9, trou dans la bande de ligand. Voilà. Alors, ceci nous conduit à différentes réductions de basse énergie de ce modèle à trois bandes. On peut imaginer partir de ce modèle à trois bandes avec toutes ces interactions qui sont ici. Et comme c'est trop compliqué à traiter et trop compliqué pour y penser, on peut vouloir réduire ce modèle un peu plus en regardant cette image ici de niveau d'énergie et en éliminant un certain nombre d'états pour construire un Hamiltonien effectif. Donc, il s'agit d'une construction à n corps, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas juste d'éliminer des bandes dans une théorie des bandes. Il s'agit d'éliminer un certain nombre d'états par projection sur un sous-espèce de Hilbert plus petit. Alors, vous voyez que le premier état que vous avez envie d'éliminer, très clairement, c'est l'état D8, parce que celui-là, on a vu qu'il était très loin en énergie, séparé d'une énergie d'ordre U, pour finalement arriver à une description qui pourrait contenir seulement ces états-là, et peut-être même seulement le singulet van Grijs, l'état D9 et l'état D10. Alors là, vous voyez qu'on arriverait à une situation où on a quatre états, essentiellement, un état vide, je parle toujours en termes de trou, hein, un état vide, un état simplement occupé, et un état doublement occupé avec deux trous de spin opposés, et ça, c'est quatre états, hein, parce que là, cet état peut avoir un spin-up ou un spin-down, quatre états, et ça fait fortement penser à un modèle de Hubbard, un modèle où il y a quatre états locaux par site. Le mot site ici, évidemment, doit être pensé comme une entité CuO4. Et vous voyez que l'énergie caractéristique qui sépare cette configuration de cette configuration, c'est une énergie qui va être d'ordre delta, ce n'est pas une énergie qui va être d'ordre U. Donc dans cette réduction à un modèle effectif de type Hubbard, eh bien, on doit s'attendre à ce que l'interaction effective devienne une interaction effective d'ordre delta, l'énergie de transfert de charge. Et U a complètement disparu du problème, UDD, complètement disparu du problème. Alors, si vous voulez voir les choses de cette d'une manière un peu imagée, voilà donc à quoi ça correspond. Vous avez votre état fondamental, vous regardez les différentes transitions à un électron. Là, je suis revenu à une image d'électron, hein, juste pour jongler entre les deux. Vous voyez qu'ici, je peux créer la configuration D10, la configuration D8 que je veux éliminer. Il y a la bande non liante qui se promène quelque part ici et que je vais gentiment oublier. Il y a une bande un peu au-dessus en énergie, parce qu'elle est au-dessus d'epsilon p, qui est le singulet de van Grijs, et puis un peu en dessous, qui est le triplet de van Grijs, qui existe aussi. D'accord ? Et donc vous voyez que la première réduction, il consiste à jeter ça, jeter ça, jeter ça, et à faire quelque chose comme ça. Hein ? Un modèle de Hubbard effectif, dans lequel on aura la bande de Hubbard inférieure, qui est le singulet de van Grijs, hein, consiste à enlever un électron, ou créer un trou, la bande de Hubbard supérieure, qui est la configuration D10, et puis le fondamental, qui a son moment local en configuration D9. D'accord ? Donc ça, c'est la réduction du problème à un modèle de Hubbard effectif, ou delta, ou U effectif serait d'ordre delta, que vous voyez bien sur ce dessin. Et puis, vous pourriez aussi, pour les composés dopés en trous, éliminer aussi la configuration D10, parce que pour les composés dopés en trous, le niveau de Fermi, le potentiel chimique, va être proche du singulet de van Grijs. Donc, si vous éliminez encore la configuration D10, vous avez un modèle encore de plus basse énergie qui va contenir seulement trois états, l'état nominal D9, spin-up ou spin-down, et l'état de van Grijs. Ça, c'est trois états, d'accord ? Et c'est ce qu'on appelle la réduction au modèle TJ, qui contient effectivement seulement trois états. Donc voilà un petit peu les différentes réductions de basse énergie qu'on peut vouloir faire. Et la question qui se pose, c'est quand est-ce que cette réduction est légitime ? Quand est-ce qu'il est légitime de passer à ce grand modèle, de passer de ce grand modèle qui contient TPD, delta, TPP, UPP, UPD, UDD, qui est assez complexe, à des modèles effectifs de basse énergie de ce type ? Et je ne crois pas qu'il y ait sur ce point une réponse complètement consensuelle à l'heure actuelle, mais il y a quand même des méthodes qui permettent je vais peut-être passer là-dessus, qui permettent de justifier cette réduction. Entre parenthèses, donc cette image que j'ai décrite ici comme un schéma, d'accord, elle peut être substantiée par de vrais calculs. Et si vous voulez voir de belles images, vous pouvez regarder cet article récent de Cédric Weber et collaborateurs du groupe de Rutgers, où vous verrez un calcul par les méthodes de champ moyen dynamique du spectre d'excitation, disons, sur des grandes échelles d'énergie, de LSCO, sans dopage, donc du composé isolant. Vous voyez bien, effectivement, que ces calculs révèlent exactement cette structure électronique que je signalais, c'est-à-dire une bande de Hubbard supérieure, une bande de Hubbard inférieure qui est le singulet de van Grijs, et puis dans ce même article, vous trouvez des études du système dopé aussi. Bon, alors comment est-ce qu'on peut, de manière plus quantitative, procéder à la construction de celta hamiltonien effectif. Alors, il y a toute une littérature du milieu des années 90 sur ce sujet. L'article de Zangreis originel est vraiment une théorie de perturbation TPD sur delta, sans UPD, sans UPP, c'est quelque chose où UDD est très grand, et puis on fait une théorie de perturbation en TPD sur delta, mais en fait, on peut généraliser cette construction d'une manière plus élégante, et il y a toute une littérature sur ce sujet, en particulier des articles de Feiner, Raimondi et Jefferson au milieu des années 90, il y a toute une série de FISREV, et puis aussi de Russe, Plakida et Tal, et de Jean de Stuttgart, sur ce sujet, qui étendent, me semble-t-il, assez considérablement le domaine de validité de ces Hamiltoniens de basse énergie par rapport à l'idée de Zangreis initiale. Alors, je vais faire un petit peu de théorie quand même pendant quelques minutes pour vous donner une idée de comment marchent ces constructions. Et puis ensuite, on reviendra à de la phénoménologie. Donc, ces constructions, elles marchent de la manière suivante. On considère le plan CuO2, on part du modèle à trois bandes et on peut garder tous les paramètres d'interaction si vous voulez, et on considère des clusters CuO4 comme ça, qui se recouvrent, vous voyez qu'ils ont des oxygènes en commun, mais c'est pas très grave, on peut en fait construire, donc dans chacun de ces clusters on a une orbitale X2 moins Y2 et puis les orbitales P sur les oxygènes. On peut construire deux orbitales de Vanier, qui sont ces combinaisons linéaires ici de ces orbitales sur les voisins. Hein, et il est facile de voir que cette orbitale de Vanier ici se lie à l'orbitale X2 moins Y2. Hein, donc c'est celle qui a les bonnes phases pour former une combinaison avec X2 moins Y2. Et celle-là ne se lie pas. Et ces orbitales de Vanier sont orthogonales d'une cellule à l'autre. Donc on a réorthogonalisé ces orbitales pour avoir une base, un système orthogonal. Alors une fois que vous faites ça, vous pouvez réexprimer le terme de saut en termes de ces combinaisons de Vanier, et vous avez donc celle-là elle ne se lie pas, donc on la laisse gentiment tomber, il y en a une qui se lie, et vous pouvez regarder le saut, entre l'amplitude de saut entre l'orbital D qui est centré ici et ces orbitales de Vanier, l'orbital de Vanier W qui est là. Alors vous pouvez regarder la manière dont son terme de saut décroît. Donc, il y a un terme sur site qui est dans une plaquette donnée, qui est très grand. Et puis, vous voyez que ces amplitudes-là, elles décroissent très, très rapidement au fur et à mesure que vous vous éloignez en espace. Donc, vous avez une bonne théorie de perturbation en T, très sympathique, qui se dessine. Voilà. Donc, vous pouvez réexprimer l'hamiltonien sur ce cluster CuO4. Il s'agit juste, en négligeant pour l'instant tous les termes de saut entre clusters, donc en retenant seulement ici T0, d'accord, vous diagonalisez cet Hamiltonien, c'est un petit problème à n corps que vous pouvez diagonaliser, et vous trouvez exactement les états que je décrivais tout à l'heure. Donc là, je suis en train de vous faire la construction de Zangreis, si vous voulez, hein, d'une manière un peu plus élégante que la construction de départ, mais en gros, c'est ça. Vous avez l'état fondamental des 10, enfin, dans la représentation de trous, hein, l'état vide, disons, de trou, donc complet en électrons, des 10, l'état à un électron, ou un trou plutôt, qui est cet état-là, donc vous voyez qui est un petit peu stabilisé par rapport au niveau epsilon d par cette énergie d'échange, et puis l'état de Zangreis. Hein, et l'état de Zangreis, c'est donc cet état où il y a deux électrons en configuration singulaire dans cet orbital de Vanier ici. Voilà, et puis ensuite, une fois que vous avez diagonalisé cet Hamiltonien, eh bien vous pouvez traiter tous les autres termes de saut entre cellules, hein, qui sont donc ces termes ici qui étaient petits, perturbativement pour construire un Hamiltonien effectif selon une construction classique, c'est-à-dire que vous cherchez à construire un Hamiltonien de basse énergie qui va avoir les mêmes états propres, les états propres à n corps, hein, du système de départ. Alors, quand vous faites ça, donc, les premiers termes, ça serait ceux-là. Hein, ça serait une formule classique de la résolvante où vous développez dans le terme qui couple les cellules entre elles. Alors, ce que vous obtenez quand vous faites ça, il y a un bon article de Plakida et collaborateurs qui donne ce résultat. Vous trouvez effectivement un modèle qui est un modèle de type Hubbard. Ici, j'ai utilisé une notation qui introduit ces opérateurs ici, qui transforme l'état bêta en état alpha, qu'on appelle quelquefois les opérateurs de Hubbard. Et vous voyez qu'ici, ce qu'on a, c'est un niveau de référence pour les états simplement occupés, qui est ce qu'on avait tout à l'heure, les états sigma, un niveau de référence pour l'état doublement occupé, qui est l'état D10, Et puis ici, des termes de saut qui couplent, ça c'est le transfert électronique, hein, puisqu'il y a un site qui passe de vide à simplement occupé et le voisin qui passe de simplement occupé à vide, avec un certain nombre de transferts électroniques qui peuvent tous être calculés en termes de TPD au départ. Alors vous voyez que ça c'est un modèle de Hubbard, un modèle de type Hubbard, à part que les sauts ici ne sont pas tous les mêmes et en fait ce type de modèle n'a pas été vraiment étudié très en détail. Les gens en général étudient tout de suite un modèle de Hubbard dans sa version la plus simple. Enfin bon, c'est en gros un modèle de type Hubbard. Alors on peut évidemment faire plus que ça, éliminer la configuration d'hélice, hein, la configuration de la couche complètement pleine sur les cuivres, et cette fois se ramener à un modèle TJ. Alors quand on se ramène à un modèle TJ, donc ce qu'on obtient, c'est un terme de. Donc c'est un modèle dans lequel il y a seulement trois états par site, un état qui est le singulet de Langreis, et un état qui est le spin, la configuration D9, donc du cuivre, un trou dans la couche D10. Donc il y a un spin. Donc ça fait trois états par site. Et le terme de saut à ce moment-là permet de passer de cet état à cet état sur deux sites voisins, et également sur des sites plus distants, mais évidemment avec la contrainte qu'on ne crée jamais d'autres états. Donc il y a un projecteur devant ce terme de saut, qui sont ces projecteurs ici, qui interdit le passage à la configuration d'hélice. Et puis, il apparaît un terme, qui est un terme dit de super-échange antiferromagnétique, qui me dit qu'il est plus facile de sauter d'un site à l'autre quand j'ai deux spins, qu'il y a une stabilisation sur un lien d'une configuration singulaire, puisque les spins sont antiparallèles, il y a donc un état intermédiaire possible d'énergie delta, hein, et ce super échange antiferromagnétique, eh bien vous voyez qu'il est exactement de la forme à laquelle vous vous attendez dans une représentation de Hubbard. Dans une représentation de Hubbard, le U effectif est d'ordre delta et le saut effectif est d'ordre TPD carré sur delta. Donc, le super-échange antiferromagnétique est de l'ordre du carré de l'élément de saut effectif divisé par le U effectif. Et donc, vous trouvez ici, finalement, un super-échange qui est de l'ordre de TPD 4 sur delta cube. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention dans la réduction du modèle à trois bandes vers un modèle de Hubbard à ce que le U effectif qui apparaît soit bien d'ordre delta et non pas d'ordre U, parce que sinon le super-échange magnétique serait complètement faux. Voilà, alors est-ce que cette réduction au modèle TJ, qui est quand même très radical, hein, puisqu'on retient juste quelques états près du niveau de Fermi, est correcte, ça c'est un, disons, c'est une question qui est controversée. En fait, vous voyez que cette construction-là, elle prend en compte au départ toutes les constantes de couplage, UPD, UPP, UDD. Il faudrait regarder de manière assez précise quand est-ce que cette construction cesse d'être valide si on augmente trop UPD. Si on augmente trop la répulsion cuivre-oxygène, il est clair que cette construction va cesser d'être valide à un certain moment. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que personne ne sait très précisément que vaut UPD dans ces matériaux. Donc là, il y a probablement un programme de recherche qui pourrait être intéressant avec des méthodes beaucoup plus modernes actuelles de structure électronique, d'évaluer ces nombres et de faire vraiment cette construction de manière plus... en utilisant ces techniques de projection pour savoir si vraiment on est dans ce régime ou non. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si vous vous contentez, pour finir sur ces réductions, si vous vous contentez d'une réduction à une bande, il est clair que les sauts plus proches voisins ne vont pas vous permettre de comprendre de manière précise un certain nombre d'aspects importants de ces matériaux, en particulier la forme de la surface de Fermi de matériaux ayant un plan cuivre-oxygène, comme La2CuO4, ou de matériaux avec plus de plans et ayant des TC plus grands, n'est pas du tout la même. Hein. Quand vous regardez La2CuO4, à des dopages relativement élevés, vous avez tendance à avoir une surface de Fermi beaucoup plus carrée qui ressemble à celle d'un système avec un saut plus proche voisin, alors que même à des dopages élevés pour ces systèmes à base de thallium, par exemple, eh bien, vous avez des surfaces de Fermi ouvertes. Et ça, ça ne peut s'expliquer que si vous incluez dans votre modèle effectif un T', un saut second voisin, qui va donc être beaucoup plus grand pour ces systèmes-là que pour ces systèmes-là. D'où l'idée d'ailleurs qu'il pourrait y avoir une corrélation entre la température critique et ce saut second voisin, qui est quelque chose sur lequel je reviendrai dans la suite, qui a été étudié assez en détail, qui semble être empiriquement vrai et dont personne ne comprend vraiment l'origine. Bon, donc je crois que ceci clôt ce que je voulais vous dire sur les modèles effectifs. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc vous voyez, la morale de tout ça, c'est que la description des plans cuivre-oxygène en termes de ce modèle à trois bandes avec UDD infini, disons, et une énergie de transfert de charge bien choisie, et peut-être aussi un UPD, et certainement une bonne description microscopique de départ de la physique des cuprates, que la réduction vers des modèles plus simples peut quand même être justifiée de manière assez sérieuse par ce type de méthode, de perturbation en amas, disons, mais que son domaine de validité complet n'est pas complètement compris actuellement, je crois, en particulier à cause des effets dynamiques possibles de UPD. Quant à la réduction au modèle TJ, elle est probablement valable au niveau, disons, qualitatif, mais sur le plan vraiment quantitatif, en particulier sûrement du côté dopé en électron, mais probablement aussi du côté dopé en trou, elle a une valeur, disons, essentiellement qualitative. Bon, voilà un petit peu pour les modèles effectifs. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est prendre quand même au moins une dizaine de minutes pour préparer, ou un quart d'heure, pour préparer le séminaire suivant, pour vous parler des grands régimes du diagramme de phase. Si je trouve... voilà. De manière à préparer le séminaire suivant, sachant que je vais continuer là-dessus très en détail au cours des cours suivants. Alors, donc, maintenant, on comprend un peu ces différents matériaux, leur structure. On a une petite idée des modèles qui décrivent leurs entités communes, qui sont les entités communes à tous ces matériaux dans cette grande famille, qui sont ces plans CuO2. Regardons un petit peu ce qui se passe quand on dope ces systèmes en trou ou en électron. Alors ça, c'est une sorte de diagramme de phase typique. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a en gros accolé le diagramme de phase de LSCO, hein, lanthane strontium CuO4, avec le diagramme de phase de NCCO. Il est bien évident que les nombres qui sont ici, les valeurs de la température, dépendent du matériau. Encore une fois, à droite, c'est plutôt pour LSCO, à gauche, c'est plutôt pour NCCO. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'au demi-remplissage, alors, quand je dis au demi-remplissage, encore une fois, c'est parce que je pense à un trou dans cette bande unique, eh bien, ces matériaux sont des isolants antiferromagnétiques et de très bons antiferromagnétiques, vous voyez, dans le cas de LSCO, avec une température critique qui est de l'ordre de la température ambiante. Et puis, par introduction de trous, donc substitution du lanthane par le strontium, cette température donnée, elle, s'écroule très rapidement et vous voyez qu'à quelques pourcents, l'antiferromagnétisme disparaît, au moins l'antiferromagnétisme à longue portée. Donc, il reste des corrélations magnétiques relatives, même assez importantes, comme vous allez le voir après. Donc, vous avez ici un écroulement de cette phase antiferromagnétique et progressivement, le système devient métallique. Et ce qui a été représenté ici, c'est plusieurs régimes pour l'évolution de ce métal. Alors, il est peut-être plus simple de sauter tout de suite à des concentrations de trous importantes, 30 ou 40% de trous, et à ce moment-là, ce métal très dopé est d'une part un métal qui n'est pas si mauvais, et d'autre part un métal qui commence à ressembler à des métaux conventionnels, ou tout au moins à des théories de liquide de Fermi, telles que celles que j'ai décrites l'année dernière, encore que, comme vous allez le voir dans la suite de ces cours, même les composés surdopés ont quand même des caractéristiques remarquables qui ne sont pas celles tout à fait du cuivre. Hein. Bon. Ce qui est certain, en revanche, c'est que quand on se rapproche de l'isolant et qu'on atteint ces régimes de faible dopage, là, la physique de ce métal devient extrêmement surprenante. Et en particulier, il y a un phénomène remarquable qui se produit ici, qui est l'apparition d'un déficit d'excitation à basse énergie dans le spectre d'excitation de ce métal. Vous voyez que du côté dopé en électrons, L'antiferromagnétisme, lui, est beaucoup plus robuste. On arrive à stabiliser l'antiferromagnétisme avec ordre à longue portée jusqu'à des concentrations qui sont beaucoup plus élevées. Alors, j'en profite pour vous signaler quand même qu'un des grands problèmes de ce domaine, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'on peut partir de LSCO et étudier l'ensemble de ce diagramme de phase en faisant un peu de chimie. Malheureusement, ça, c'est pas vrai. Et en plus, en faisant toutes les expériences possibles sur le même matériau. Ça, c'est pas vraiment possible. Et pour des raisons, d'une part, de fabrication des matériaux, d'autre part, de préparation de ces matériaux en vue de tel ou tel type d'expérience. Pour faire des neutrons, il faut des gros cristaux. Pour faire de l'ARPES, il faut des surfaces qui clivent bien, etc. etc. Et donc, malheureusement, il y a des matériaux qui se prêtent mieux dans cette grande famille des cuprates à certains types d'expériences et d'autres mieux à d'autres types d'expériences. De sorte qu'il est relativement rare, enfin il est même impossible, de faire toutes les preuves expérimentales, d'utiliser toutes les techniques expérimentales sur le même matériau et même sur le même échantillon à travers l'ensemble de ce diagramme de phase. C'est bien différent, par exemple, de ce qu'on peut faire sur un système comme strontium ruthénate, qui est aussi un 2-1-4, pour lequel, sur 2-1-4, on peut faire tous les types de mesures qui existent dans la boîte à outils de l'expérimentateur de la physique du solide. On peut faire des oscillations quantiques, des neutrons, de l'ARPES, etc., etc., du transport, sur le même matériau. Là, ce n'est pas trop possible. Alors ici, j'ai trouvé dans cet article une sorte de diagramme de phase dans lequel vous voyez l'étendue qu'on peut couvrir si on veut utiliser l'ARPES, si on veut faire de l'ARPES, donc de la photoémission résolue en angle. Alors vous voyez que, bon, évidemment, il faut utiliser des dopés en électrons de ce côté-là, des dopés en trous de ce côté-là, mais il y a des matériaux pour lesquels l'ARPES est relativement possible. Alors, par exemple, les bismuths de 2-1-2 qui clivent très très bien, on peut les emmener du côté sous-dopé au côté sur-dopé et faire de l'ARPES. Par contre, il est extrêmement difficile de faire de l'ARPES sur IBAQO. On peut faire aussi de l'ARPES sur LSCO, sur une relativement grande gamme de dopage, bien que ce soit un petit peu plus dur parce qu'il clive moins bien. Ce n'est pas étonnant, c'est des composés plan unique, etc. Donc vous voyez qu'à chaque type d'instrumentation et à chaque régime de dopage dans le diagramme de phase correspond des familles de matériaux qui s'y prêtent bien. Voilà. Et qu'on va toujours être obligé de faire des comparaisons entre une expérience d'ARPES sur BISCO et une expérience de calorimétrie sur IBAQO ou de neutrons sur LSCO. Voilà ce qui nous occupe tout le temps dans les cuprates. Bon, comme je suis largement en retard, je vais peut-être vous parler, ça je le ferai la prochaine fois parce que ça se couple bien aux neutrons qui viendront après. Je vais vous parler un petit peu plus de ce pseudogap, de manière à préparer le séminaire d'Henri. Voilà. Alors, tout le problème des cuprates, c'est donc qu'on introduit des trous dans un environnement antiferromagnétique. On a donc un bon antiferromagnétique, ça je vous le montrerai plus en détail la prochaine fois et vous le verrez très bien dans le séminaire de Philippe Bourges et Yvan Sidis sur les neutrons. On a un bon antiferromagnétique et on dope en trou. Alors vous voyez que le dopage en trou est très défavorable par rapport à l'environnement antiferromagnétique. L'antiferromagnétisme n'aime pas le dopage en trou et les trous n'aiment pas l'environnement antiferromagnétique pour la raison suivante. Si vous introduisez un trou ici, et que vous essayez de faire sauter ce trou, ou alternativement sauter cet électron, eh bien vous voyez qu'ici, clairement, cet électron qui était un spin vers le bas va devenir ici toujours un spin vers le bas, et maintenant, les liens ici qui étaient contents, parce qu'ils étaient satisfaits par un spin vers le haut, donc ce couplage antiferromagnétique était content, va maintenant ne plus du tout être content, puisqu'on aura ici un spin parallèle au voisin, et donc on va payer une énergie qui va être un multiple de J. Donc l'environnement antiferromagnétique est fortement bouleversé par la présence de trous mobiles et la mobilité des trous n'est pas aidée par l'environnement antiferromagnétique. Donc c'est tout le problème, c'est comment se comporte un isolant antiferromagnétique quand on introduit des porteurs de charge. Alors effectivement, ce qu'on observe, c'est que quand même on arrive à métalliser le système. Si vous regardez la conductivité optique de ces matériaux en fonction de l'énergie, j'ai déjà montré cette courbe tout à l'heure, à dopage 0, vous avez donc un isolant, il s'agit ici d'LSCO, et quand vous introduisez des porteurs de charge, eh bien vous commencez à construire quelque chose à basse fréquence. Donc à avoir quelque chose qui a une réponse de métal. Mais vous voyez que la construction de cet objet, de cette réponse à basse fréquence, est quand même graduelle. Hein, si vous regardez ici à 2%, on ne peut pas vraiment appeler ça un pic de Drude. On a quelque chose qui est vraiment un mauvais métal. Ce n'est qu'à des dopages, disons, de plusieurs pourcents, peut-être 10%, 6%, où on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un vrai pic de Drude et qui finalement, autour du dopage optimal, va ressembler vraiment à un pic de Drude. Donc vous voyez que cette courbe de conductivité optique, qui est intervenue très rapidement après la découverte des cuprates, vous montre que la fabrication d'un état métallique est relativement pénible dans ces systèmes, relativement difficile. Et en particulier, vous voyez une chose intéressante, c'est qu'elle se fait par transfert de poids spectral de la région qui est immédiatement au-dessus du gap ici, hein, puisque vous voyez que quand on dope, cette région est fortement déprimée hein, en poids spectral, vers deux régions, d'une part une région très basse fréquence, aux dopages les plus élevés, qui est le pic de Drude d'un métal, et d'autre part une région intermédiaire ici, de l'ordre d'un électronvolt ou moins, qu'on appelle souvent la région d'infrarouge moyen, vers lequel il y a un fort transfert de points spectral. Donc c'est la fameuse mid-infrared absorption qui a été tellement discutée pour ces systèmes. Donc déjà, ces mesures de conductivité optique vous montrent que la réalisation d'un état métallique se fait avec difficulté. Vous pouvez quantifier ça un petit peu plus en essayant de regarder quel est le poids spectral de ce pic de Drude, disons, dans un intervalle d'énergie de l'ordre de 0,2 eV, ici, à basse fréquence. Alors, si vous faites ça, j'ai emprunté ce graphe à une sorte de compilation qui a été faite récemment, de données expérimentales, qui a été faite récemment dans un article auquel Luca de Medici a fortement contribué, et qui vous montre le poids spectral en fonction du dopage pour toute une série de matériaux. Et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, ce poids spectral est faible à faible dopage, et puis il augmente en fonction du dopage. Alors ça, ce n'est pas très étonnant. On a vu ça dans d'autres isolants de mode dopé, comme les titanates, dont j'ai parlé l'année dernière. Et au cours prochain, je vous ferai une comparaison plus détaillée entre ce qui se passe dans les titanates et ce qui se passe dans les cuprates, de ce point de vue-là. Bien. Alors maintenant, je vais sauter beaucoup de choses et je vais sauter beaucoup de choses et je vais vous montrer comment ces quasi-particules se comportent vraiment. Donc on voit sur ces mesures de conductivité optique qu'on doit quand même introduire des porteurs de charge et établir un état métallique. Comment s'établit cet état métallique ? Eh bien, si on veut regarder ça d'une manière qui soit résolue en impulsion, la technique de photoémission résolue en angle est idéale. Ce n'est pas historiquement la manière dont les choses se sont passées. Et je fais confiance à Henri pour nous expliquer comment, historiquement, le pseudo-gap a été découvert par les mesures de RMN. Là, je prends un ordre qui n'est pas à l'ordre historique. Je vous montre comment les choses se passent quand on les regarde de manière résolue en impulsion dans la zone de Brillouin. Eh bien, en réalité, cette difficulté qu'on les trouve à bouger dans un environnement antiferromagnétique, elle se traduit par le fait que le système n'aime pas former de bonnes quasi-particules, les quasi-particules de Landau dont j'ai parlé l'année dernière, dans certaines régions de la zone de Brillouin. Alors, ça c'est quelque chose qu'on voit très bien en utilisant cette technique de photoémission résolue en angle. Je vous rappelle que cette technique de photoémission résolue en angle, elle mesure le recouvrement qui existe entre l'état fondamental du système dans lequel on a rajouté ou enlevé, plutôt enlevé un électron, et puis un état excité du système avec un électron de moins. J'avais expliqué ça assez en détail l'an dernier. Et ce à quoi on s'attend dans un bon liquide de Fermi, c'est de voir apparaître près de la surface de Fermi un pic bien étroit, qui est le pic de quasi-particules, qui est donc une excitation de grande durée de vie de type électronique. En fait, si vous regardez ce qui se passe dans les cuprates, eh bien vous voyez que ce spectre de photoémission, si vous le regardez, donc ici c'est le point central, 0, 0, ça c'est pi pi, ça c'est pi 0. Vous voyez que si vous regardez les choses selon la diagonale de la zone de Brillouin, ça c'est la surface de Fermi, donc ici c'est le point de croisement de la surface de Fermi avec cette direction diagonale, ce qu'on appelle, pour des raisons que j'expliquerai plus loin, la région nodale, eh bien vous voyez que dans cette région, on a un bon pic de quasi-particules, ici. On peut discuter de la largeur de ce pic, on le fera au cours des cours suivants, mais on a une bonne quasi-particule. Alors que si on regarde ici, dans la région proche de pi 0 ou de 0 pi, eh bien vous voyez que d'une part, on n'a pas du tout un bon pic, on a un pic très large, qui ne ressemble pas du tout à une excitation de grande durée de vie, et d'autre part, si vous regardez la position du 0, ici, eh bien, le point qui est là est en fait décalé hein, par rapport au zéro d'énergie. Il y a donc non seulement une destruction des quasi-particules dans la région antinodale, mais il y a en plus l'apparition d'une sorte de déficience d'état excité à très basse énergie, près du niveau de Fermi, dans cette même région. Et donc ça, c'est le phénomène dit de pseudo-gap, qui n'a pas été découvert de cette manière, qui a été découvert par RMN, et qui est une caractéristique essentielle de cette région de bas dopage du métal qu'on obtient en dopant ces cuprates en trou. Alors cette phénoménologie du pseudo-gap, sur laquelle je vais revenir en détail la prochaine fois, elle a d'autres conséquences qui se voient dans toutes les mesures expérimentales, ou presque toutes les mesures expérimentales. Donc je vais essayer de vous en donner une petite liste. Elle se voit en résonance magnétique, et c'est comme ça qu'elle a été découverte. Voilà une courbe que je pense Henri va nous montrer, qui est ce qu'on appelle le night shift, hein, qui est une mesure locale de la susceptibilité magnétique en première approximation, en fonction de la température. Vous voyez que pour le matériau IBAQO7, ici il s'agit d'IBAQO, pour le matériau IBAQO7, c'est-à-dire qui est le matériau à dopage optimal, la dépendance en température de ce night shift est quasiment plate. Disons, c'est à quoi on peut s'attendre pour la réponse de Pauli d'un métal. En revanche, si vous regardez le matériau sous-dopé, donc quand vous vous rapprochez de l'isolant, eh bien vous voyez que la réponse n'est plus du tout plate. On a, en venant des hautes températures, un déficit d'excitation. On a clairement une réponse non Pauli avec un trou d'excitation. Donc, on a vu ça par l'ARPES. Sont des excitations à une particule. Ici, on voit qu'il s'agit d'excitations magnétiques hein, qui manquent, avec un trou d'excitation. Et ce qui a été représenté ici, c'est la courbe correspondante pour le J qu'on connaît pour ce système dans un modèle de purement de modèle de Heisenberg au demi-remplissage, donc pour le modèle isolant. Et vous voyez que la susceptibilité magnétique passe même en dessous de la courbe correspondant au système isolant. Donc c'est vraiment une déplétion à basse énergie des excitations magnétiques qui est plus radicale que celle auquel vous vous attendez dans l'isolant. Voilà, donc ça c'est le phénomène du pseudo-gap qui se corrèle, qui est le même phénomène vu à la fois dans les excitations magnétiques en RMN ou dans les excitations à une particule en ARPES. On peut quantifier, en fonction du dopage, la température caractéristique auquel on commence à voir ce décrochage. Et quand on fait ça, eh bien on obtient une ligne dans le diagramme de phase, qui est en gros cette ligne ici, hein, en dessous de laquelle ce métal avec un pseudo-gap apparaît. Et cette ligne, vous voyez qu'elle nous dit que le pseudo-gap est d'autant plus grand que le dopage est faible. Donc ceci détermine une région du diagramme de phase dans laquelle on a un métal étrange avec formation d'un pseudo-gap dans les excitations. On sait maintenant que ce pseudo-gap concerne principalement les régions antinodales et c'est un des grands défis de ce domaine de savoir quelle est l'origine de cette déficience d'excitation, quelle est l'origine de ce pseudo-gap. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter ici pour vous donner, vous intriguer un peu sur la suite. Lié à l'origine physique de ce pseudo-gap, on peut imaginer par exemple que ce pseudo-gap soit un effet précurseur de l'appariement. Après tout, on forme des paires de Cooper dans l'état supra, peut-être ces paires survivent dans l'état normal, bien qu'elles n'aient pas la cohérence de phase, et que ce qu'on voit ici, c'est tout simplement le fait que les excitations de ce système, ces objets sont des singulets, donc ils réagissent mal à un champ magnétique, hein, Et donc, on va avoir une déficience, de la une déplétion de la susceptibilité à cause d'un appariement précurseur dans l'état normal. Donc, c'est une interprétation possible. On peut aussi imaginer que ce pseudogap corresponde en fait à une vraie transition de phase vers un état avec un certain ordre à longue portée qu'on n'aurait pas encore découvert. Donc, ce que les gens appellent quelquefois l'ordre caché. Voilà. Donc, y a-t-il un ordre caché en dessous de T-star ? Est-ce que c'est de T-étoile ? Est-ce que ça représente la transition vers un nouvel état avec une mesure de symétrie ? On peut aussi imaginer que, au contraire, ce pseudogap soit en fait simplement un crossover, un passage graduel vers une tendance à former de plus en plus d'états singuliers, appariés par le J antiferromagnétique, dans l'état métallique faiblement dopé. Donc voilà différentes pistes possibles, bien différentes, qui font l'objet de toutes sortes de discussions dans la communauté. J'ai ma propre opinion sur la réponse à ces différentes questions, pas forcément complètement établie pour toutes, mais en tout cas, certainement sur la première, que vous découvrirez probablement plus tard dans ces cours. Mais je pense que là, je vais m'arrêter. On va faire une pause d'un bon quart d'heure pour ensuite passer au séminaire d'Henri Alloul. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. Merci.